Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Patrick Modiano. Une vie, une œuvre est une émission peuplée de fantômes, ceux d'écrivains, d'artistes ou de penseurs disparus que nous nous plaisons à ressusciter chaque semaine. Mais notre sujet d'aujourd'hui est bien vivant. Pourtant, Patrick Modiano est ici comme chez lui, tant son œuvre et son existence sont elles aussi hantées par les absents dont il joue à faire danser les ombres dans ses romans, depuis La Place de l'Étoile en 1968 jusqu'à Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier cette année. Une vie, une œuvre prend donc en filature ce détective métaphysique, comme l'appelle son épouse, couronné du prix Nobel de littérature il y a deux jours pour, je cite l'Académie suédoise, l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Une vie, une œuvre, Patrick Modiano, une émission de Martin Kénéen et Doria Zénine. Pour débuter cette émission, quelques notes de Vol avec effraction, un morceau de Paul Misraki composé pour la musique du Doulos de Melville, un film de 1962 choisi à dessein pour son ambiance, son atmosphère de film noir, et puis pour le mot effraction, car Tiphaine Samoyo, l'homme Modiano, et puis ses héros en apparence si doux, voire même parfois pusillanimes, ont, selon vous, en commun la nécessité, sinon le goût, de faire effraction.
Oui, alors en effet, le terme peut paraître un petit peu contradictoire avec l'ambiance de mélancolie triste et douce ou les clairs-obscurs qui baignent pour une bonne part ces romans. Mais je crois que cette violence est importante chez Modiano et qu'il faut pouvoir la nommer en même temps que une certaine douceur et une certaine mélancolie.
Cette violence tient à sa date de naissance, en particulier pour vous, 1945, cette date qu'il a longtemps cachée.
Oui, c'est-à-dire que selon moi, il entre dans l'histoire par effraction puisque tout a eu lieu avant. Alors peu importe que ça soit vrai ou non, il se trouve que l'entreprise littéraire repose sur cette idée que tout a eu lieu avant et où il ne s'agit pas d'y retourner et s'y installer confortablement comme si c'était naturel et possible même, mais d'entrer dans cette histoire et d'y faire voir sa propre absence. Et je crois que les lieux, enfin certains lieux, comme on en parle beaucoup, des boulevards de ceinture, des zones intermédiaires, comme d'ailleurs certaines époques aussi, les années 60, qui sont des seuils, des entre-deux qui permettent de faire cette expérience de l'effraction. Et il y a cette violence-là, parce qu'il y a une intrusion, il y a quelque chose de violent et d'offensif dans cette manière de pénétrer des intimités, de ne pas laisser les morts tranquilles. Il y a vraiment une violence là-dedans, ces coups de téléphone, ces enquêtes qui sont menées sur des adresses, sur des gens vivants, une sorte d'acharnement sur ce passé qui moi, me frappe beaucoup et me touche dans ces textes.
La violence, le fracas, l'effraction sont aussi là, Claude Arnaud, dès l'entrée en scène, sur la scène littéraire de Modiano en avril 68. Il écrit lui-même qu'il est entré par effraction dans le château de la Belle au Bois dormant.
Oui, alors quand on relit La Place de l'Étoile, c'est très frappant de voir à quel point effectivement il y a de la violence, il y a de la rage, il y a de l'ironie, il y a une hypermnésie, il y a une ultra connaissance de ce qui va être après le territoire quasi privatisé, territoire historique privatisé par Modiano lui-même, c'est-à-dire l'occupation. Il sait tout sur cette époque, il a tout lu, il cite tous les auteurs, et c'est des auteurs qui en 68, donc deux mois avant en mai, même si le livre est écrit un an et demi avant, qui n'intéressent strictement personne, à part quelques vieux fascistes déclinants. Donc ça, c'est très étonnant de voir un jeune homme français, juif par son père, qui s'est complètement approprié ce monde-là, cette histoire-là, ce Paris-là, et dont toute l'œuvre va confirmer cette appropriation. La seule chose qui est vraiment saisissant et fascinant, c'est que c'est toute cette appropriation d'origine est faite avec un rythme, une vitesse, une drôlerie, une dérision, un dandisme, qui est exactement à rebours de ce que désormais le nom de Patrick Modiano suggère à ses lecteurs et aux gens qui l'approchent. Donc là, il y a une sorte de paradoxe qu'il faudra peut-être creuser, parce que c'est quelqu'un qui, à mes yeux, s'est non pas auto-inventé cette histoire-là, il en hérite, vous l'avez dit, c'est 45, c'est une histoire familiale très, très trouée, très complexe, et forcément, mais il en hérite là en pleine conscience de cause, et d'une certaine façon, c'est l'histoire d'un homme qui a tout fait pour oublier ce qu'il savait depuis le début. Et cette amnésie, cette fantomisation de l'univers de Modiano, à mes yeux, elle est une entreprise délibérée d'auto-engendrement littéraire, c'est-à-dire qu'il devient le fils de cette œuvre qu'il a lui-même construit en s'appropriant ce territoire historique et géographique très particulier du Paris de l'occupation. Et cet auto-engendrement, dont on pourra, mais je pense que tout le monde a compris, qu'elle remplace un engendrement, ce qu'on pourrait qualifier de décevant dans son cas, ou de trop fascinant, d'une certaine façon, cet auto-engendrement, il est mené de façon obsessionnelle, radicale, mais effectivement, il arrive jusqu'à cette forme fantomisée qu'on connaît aujourd'hui et qui est déroutante quand on a lu l'origine et quand on se souvient de cette origine. Et il suffit de relire La Place de l'Étoile pour en avoir la preuve vivante.
Précisément, Claude Arnaud, vous êtes venu avec dans votre poche revolver la version de poche. Oui. De la place de l'Étoile.
Voilà, oui, c'est peut-être un extrait qui va donner concrètement la preuve de ce que j'avance. C'est un jeu constant, le narrateur est juif. Il s'appelle Schlemilovitch, c'est évidemment une référence à Peter Schlemihl, qui était le héros d'une nouvelle, enfin plus que d'une nouvelle, d'un roman d'Aldabert von Camisso, qui est un romantique allemand, et c'est l'histoire d'un homme qui perd son ombre et finalement rachète au diable son âme, puisque c'est le diable qui lui avait volé, si on peut dire, ou séquestré. Et ce Schlemilovitch est totalement, on voit bien, totalement inspiré, hanté par la figure de Céline. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, de voir que l'origine littéraire de Modiano n'est pas du tout modianesque. C'est même aux antipodes, on ne peut pas faire plus aux antipodes littéraires du Modiano d'aujourd'hui que le Céline, et surtout le Céline de la trilogie d'après-guerre, et je pense plus particulièrement à D'un château l'autre, qui est, à mes yeux, le livre clé derrière le fantôme de ce livre-là, de La Place de l'Étoile. Et toute l'entreprise de Modiano est un jeu très complexe, très ironique sur l'identité juive, des jeux de miroir avec le nazisme, des jeux de miroir sans fin, avec un paysage beaucoup plus international que celui qu'on va voir se dessiner après dans l'œuvre de Modiano. Le narrateur a des cousins à Caracas, à Salonique, à Livourne. Il cousine avec Modigliani. Par ailleurs, il fait 1m98 et il ressemble à Raoul Peck. Donc on peut considérer qu'on est quand même déjà très proche d'une forme d'autofiction. Et c'est ça qui m'a frappé dans le livre. C'est un cas flagrant d'autofiction. Et peut-être un des tout premiers dans le paysage français, même si là aussi on peut considérer que Céline et d'une certaine façon Genet sont quand même des parrains du genre.
Alors, Raoul Peck ou Grégory Peck ?
Grégory Peck, c'est moi. J'ai dit Raoul Peck parce que merci de m'avoir corrigé. Aussi. À cause d'Haïti. Tout page 15 du livre, le narrateur, donc, qui postillonne comme Céline hein, au tout début, éructe une espèce de discours étrange à la fois philosémite, antisémite, de juif assimilé, qui joue constamment. Je pense que même c'est un livre qui serait impensable aujourd'hui. Mais je ne suis même pas sûr qu'il serait édité.
D'ailleurs, entre-temps, il a été corrigé. Enfin, Modiano lui-même, on a fait une deuxième version. Voilà. Oui. Il y a des passages qui n'étaient plus audibles 20 ans plus tard et que Modiano a lui-même censuré et auto-censuré.
Oui. Il y a même un passage là que je ne vous lirai pas parce que je pense qu'aujourd'hui, ça réagirait très très mal. Donc pour vous dire aussi la charge de ce livre et l'incongruité totale de cette apparition, 2 mois avant mai 68, à un moment où la France pense complètement à autre chose qu'à cet épisode. Donc je vous lis ce passage. C'est la troisième page de ce roman qui fait 210 pages, qui est quand même pas mal pour Modiano. Le docteur Bardamu, donc ne me pardonnez pas mon Bardamu démasqué que je lui avais envoyé de Capri. Je révélais dans cette étude mon émerveillement de jeune juif quand, à 14 ans, je lus d'un seul trait Le Voyage de Bardamu et Les Enfances de Louis Ferdinand. Je ne passais pas sous silence ces pamphlets antisémites comme le font les bonnes âmes chrétiennes. J'écrivais à leur sujet, le docteur Bardamu consacre une bonne partie de son œuvre à la question juive. Rien d'étonnant à cela, le docteur Bardamu est l'un des nôtres. C'est le plus grand écrivain juif de tous les temps. Voilà pourquoi il parle de ses frères de race avec passion. Dans ses œuvres purement romanesques, le docteur Bardamu rappelle notre frère de race, Charlie Chaplin, par son goût des petits détails pitoyables, ses figures émouvantes de persécutés. La phrase du docteur Bardamu est encore plus juive que la phrase tarabiscotée de Marcel Proust. Une musique tendre, larmoyante, un peu raccrocheuse, un tantinet cabotine. Je concluais, seuls les juifs peuvent vraiment comprendre l'un des leurs. Seul un juif peut parler à bon escient du docteur Bardamu. Et ça va être comme ça pendant 205 pages. Et évidemment, là, on voit bien la source célinienne, parce que le Céline était, vous vous souvenez sans doute, dans le journal de Junger, il y a un dîner extravagant à l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, en 43-44, où Céline essaye de convaincre les représentants de la Gestapo qui sont là que l'Allemagne est en train de perdre la guerre parce qu'un juif a remplacé Hitler et que l'Allemagne est menée par un juif. Et évidemment que là, c'est le miroir écrit du côté juif de Modiano qu'il tend à Céline en faisant de Céline un juif à son tour, comme Céline avait fait de Racine un juif. On est dans une espèce de délire qui, je finirai là-dessus, m'a beaucoup frappé, fait beaucoup penser à Philippe Roth, héros malheureux de ce Nobel.
Alors cette jubilité, cette identité juive difficile à cerner de Modiano, nous y reviendrons, mais nous étions partis sur la notion d'effraction, on entend, dans le verbe modianesque de la place de l'Étoile, donc lu par vous, Claude Arnaud. La précipitation est quelque chose qui est assez loin de ce qui est devenu la langue, la phrase de Modiano. Effraction encore, mais cette fois-ci dans la biographie, dans l'entourage de Patrick Modiano, de Nikos Nar. Effraction au sens littéral, puisqu'il y a parmi les amis de ses parents quelques cambrioleurs, en particulier en 1953, quand ça fait un an qu'il est élevé loin de ses parents par une amie, Suzanne Boucreau, à Jouy-en-Josas. Elle disparaît du tableau parce que, lui révèle son père un peu plus tard, elle a été arrêtée pour des cambriolages.
Oui, on n'en sait pas beaucoup plus, à vrai dire, que ce qu'a raconté Modiano dans quelques phrases sèches de son autobiographie, un pédigré. Mais cet épisode où il s'est retrouvé avec son jeune frère Rudy, délaissé comme ça par ses parents, entre des mains peu recommandables pendant à peu près un an, à Jouy-en-Josas, évidemment a été un épisode très, très important pour lui. Il l'a raconté dans un récit qui s'appelle « Remise de peine ». Il le raconte sous une forme qui relève un peu du conte de fées, avec des personnages qui s'appellent Blanche-Neige ou des gens comme ça. Et puis, il l'a raconté à nouveau rapidement dans un pédigré. Et puis, dans son tout dernier roman, là, qui est sorti la semaine dernière, « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier », c'est la même histoire qu'il reprend. Mais alors là, il en fait une sorte de roman noir, nimbé d'une couche de brume, comme toujours maintenant chez Modiano. On n'est plus du tout dans ce qu'on vient d'entendre sur ce verbe violent, acéré de la place de l'Étoile. Mais c'est la même histoire, avec évidemment d'infimes variations, mais c'est une histoire effectivement qui est nourrie par au départ un cambriolage. Mais toute l'œuvre de Modiano effectivement est complètement remplie de faits divers, de trafics, de cambriolages, de personnes en délicatesse avec la justice, aux destinées les plus insaisissables, pour reprendre la formule
de l'Académie de Nobel.
Exactement. De fuyards qui ont changé de nom parce que c'était la seule solution pour survivre, de mauvais garçons, de mauvaises filles. C'est à la fois dans les textes, dans l'histoire, et puis dans le sous-texte, dans ce qui nourrit vraiment l'œuvre de Patrick Modiano, qui s'inspire énormément de faits divers. Il raconte qu'il connaît tous les faits divers depuis quasiment le début du siècle, et en particulier ceux qui sont reliés à la période de l'occupation. Il suffit, pour s'en rendre compte, de prendre son tout dernier roman, là, paru la semaine dernière. Le personnage féminin principal s'appelle Chantal Grippet. On l'appelle la chinoise dans le roman. Et effectivement, il y a eu une vraie Chantal Grippet, qu'on appelait effectivement vraiment la chinoise, parce qu'elle avait les yeux un peu bridés. C'était une pute marseillaise. Qui a été une des victimes du docteur Petiot, le fameux docteur qui, pendant la guerre, était un docteur marron et qui disait à des gens qu'il allait les faire passer à l'étranger, moyennant finance. Et puis finalement, ces braves personnes, il y en a eu quand même 27, se sont retrouvés brûlés dans un calorifère. Et Chantal Grippet faisait partie de cela. Et qui plus est, Chantal Grippet vivait avec un gars qui s'appelait Adrien Le Basque, enfin qu'on appelait Adrien Le Basque parce qu'il était basque, qui était un des membres de la fameuse Gestapo française de la rue Lauriston.
On retrouve tous ces personnages, voilà. À la fois ces fantômes, à la fois ces personnages de fiction et au nom véridique,
évidemment.
L'histoire véridique qui peuple non seulement la littérature, tous les romans de Patrick Modiano, mais aussi son existence, son enfance, quand il accompagnait son père, il en parle en particulier donc dans son autobiographie Un pédigré, mais il a lui-même, s'il n'est pas entré par effraction, il a lui-même joué les mauvais garçons et volé.
Il avoue dans Un pédigré, effectivement, qu'il a fait quelques larcins à une époque où vraiment il était dans la dèche, des choses extrêmement, vraiment minimes. Ensuite, il est entré dans la littérature tout de même par la grande porte, celle de la maison Gallimard, de la collection blanche de Gallimard, ce qui est quand même la plus grande porte par laquelle on peut entrer dans la littérature. Il y est entré un petit peu par effraction, quand même, semble-t-il, puisque il avait signé un contrat juste avant de signer avec Gallimard. Il avait, semble-t-il, signé un contrat avec Le Seuil. Et il semble, c'est ce qu'on se dit, c'est une des légendes qui court, ou une information qui court, je ne sais pas, que c'est pour ça qu'il a triché sur sa date de naissance. C'est que ça lui a permis, en disant qu'il était de 2 ans plus jeune, de dire qu'en fait il avait signé un contrat alors qu'il n'était pas majeur, que ce contrat qu'il avait signé avec Le Seuil n'avait donc pas de valeur, et que les gens du Seuil pouvaient déchirer ce contrat.
Non, je ne pense pas qu'il y ait une vraie délinquance directe, mais par contre on sent effectivement non seulement la violence littéraire, mais un jeu avec la loi très fort. Et dans La Place de l'Étoile, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a à la fois de la sexualité, qui après va être complètement vaporisée, sinon dissoute, des passages à l'acte, des strangulations, de la prostitution, puisque le personnage est censé recruter des prostituées qu'on va envoyer après dans des pays orientaux, qu'on va vendre, un traitement des personnages féminins qui est assez rude, assez brutal et qui n'est pas exactement moraliste. Donc on sent qu'il y a quand même une charge qui n'est pas tranquille, qui n'est pas douce.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien.
C'était bien, qu'on connaît plus sous le titre Le Petit Bal Perdu, chanté par Bourvil, enregistré en 1960, et que Patrick Modiano, cette chanson, il l'a écoutée sur un transistor, il en parle. Cette chanson qui parle de mémoire et d'oubli, deux éléments clés pour comprendre, pour découvrir l'œuvre de Patrick Modiano. Pierre Paché, cette mémoire et cet oubli, Modiano les exhume, voire les reconstruit également. Le passé, un monde, dites-vous, disparu, mais finalement pas détruit.
C'est un paradoxe qui apparaît de plus en plus de nos jours, où en effet des mondes ont été détruits, comme c'est toujours le cas dans l'histoire humaine, sans donner d'exemple. Et aujourd'hui, grâce à la multiplication des informations, on peut se rapprocher de ce passé infiniment, pas simplement comme l'a fait Modiano en collectionnant des coupures de journaux, en allant à les bibliothèques, mais même on peut retrouver des annuaires très anciens C'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que ça me frappe. Je me dis, oui, le monde, pour prendre un exemple personnel, le monde de mes grands-parents maternels est complètement détruit, mais j'ai retrouvé sur Internet l'annuaire du téléphone de la petite ville où ma mère vit. Et j'en dis le mot. Alors, cette destruction qui est conjointe avec une possibilité de se rapprocher de façon presque fantastique de tous ces éléments du passé, c'est étonnant. Et Modiano, qui est un passionné de documentation, d'information, garde en même temps la sensibilité, enfin, ou fait partager à ses lecteurs cette sensibilité qui a été formée par la disparition, par l'oubli, par les choses dont on ne parle pas. Et il y a en effet chez lui beaucoup de courage à intervenir sur la scène publique en écrivant, en publiant et en faisant revenir au premier plan des choses qui maintenant sont beaucoup plus dans l'air du temps, des choses dont on parle, qui sont presque obsédantes, mais qu'il a été un des premiers à mettre au premier plan, enfin... J'étais frappé en lisant le cahier de Lerne
auquel vous avez participé.
Ouais, je vaguement participé.
Avec Claude Burgelin et Tiphaine Samoyo qui sont à nos côtés.
Oui, très bien.
Et vous disiez d'ailleurs, vous dites dans cette contribution au cahier de Lerne, Pierre Paché, que vous êtes touché par le fait qu'il exhume, il met au jour ce monde disparu et pas détruit, celui des annuaires, des bottins, comme dans, au début de la rue des boutiques obscures, et puis également celui des rues, et notamment ce qui vous a marqué, qui résonne en vous, c'est une rue de Vichy, la rue Beauparlant.
Oui, mais lui, il n'en parle pas de la rue Beauparlant.
Alors
ça,
pour
ça
vous, c'est une rue. C'est une rue aussi
non,
que
mais...
vous.
Oui, bien sûr, vous savez, les rues, les noms de rues, surtout quand on est petit, enfin, moi, c'est un souvenir d'après-guerre, mais des noms de rues rue Beauparlant, c'est très parlant, comme son nom l'indique, mais c'est très énigmatique, c'est mystérieux, ça renvoie toute une histoire antérieure. Et non, ce que j'allais dire quand vous êtes intervenu pour parler de Cahiers de Lerne, c'est que dans ce Cahiers de Lerne, Modiano dit que un film qui a été important, et il a été pour lui comme pour moi et beaucoup de Français, c'est Le Chagrin et la Pitié. Parce que dans Le Chagrin et la Pitié, l'intervention documentaire, on voyait même Raphaël Geminiani, dont le nom dira peut-être quelque chose à des auditeurs, l'intervention des personnages qui avaient été là faisait ressortir toutes ces choses dont on ne parlait. C'est un film qui a marqué pour moi un changement dans l'atmosphère française, et j'étais heureux que Modiano, à sa façon si singulière, intervienne lui aussi.
Rappelons que Le Chagrin et la Pitié, c'est ce documentaire d'Ophuls qui est tourné dans la région de Clermont-Ferrand, Marcel Ophuls, et qui donne la parole à différents profils de Français qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Chacun a une place un peu particulière, mais qui les met tous au même plan.
Il y a aussi Lacombe-Lucien, qui est un film très important, qui est aussi, qui est avec Le Chagrin et la Pitié, provoque le tournant de la conscience historique française et du regard français sur l'occupation, et c'est Patrick Modiano qui est au scénario. Et pour résumer rapidement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut s'engager dans la résistance. Il est trop jeune pour que la résistance l'accepte. Il va frapper à la porte de la milice et il va devenir un milicien très efficace. Et on peut dire que c'est ce moment-là, c'est ce tournant d'une certaine façon où l'obsession très personnelle de Modiano devient une obsession nationale. Ce territoire qu'il avait en partie privatisé littérairement devient un territoire global et devient une obsession nationale, avec cet immense remords de cette France qui se croyait résistante sous l'époque gaulliste, qui tout d'un coup se découvre avoir été totalement collaborationniste, ce qui est quand même plus compliqué. Et là, du coup, l'œuvre de Patrick Modiano devient une œuvre absolument centrale, alors qu'elle était l'œuvre d'une sorte d'isolé et de cas. En 68, certainement.
Il y a cette obsession nationale pour l'occupation, ses démons, ses fantômes. Et puis il y a cette obsession qui reste très particulière, très propre à Modiano, Denis Cosnard. Pierre Paché en disait un mot, c'est celle pour les noms de rue. Et je crois qu'on retrouve cette obsession dans l'extrait avec lequel vous êtes venu aujourd'hui dans Une vie, une œuvre. Un extrait de Remise de peine.
Oui, on retrouve à la fois effectivement l'obsession pour Paris et l'obsession aussi pour cette période de l'histoire. En l'occurrence, il y a ce d'un passage où le personnage, enfin c'est aussi le personnage de Modiano évidemment, est à la recherche du garage du 17e arrondissement où travaillait un certain Eddie Pagnon. Édith Pagnon, c'est un personnage absolument majeur. On le retrouve dans à peu près 90% ou 80% des livres de Modiano d'une façon ou d'une autre. C'est un personnage dont Modiano a pensé à tort ou à raison, et sans doute plutôt à tort, qu'il avait aidé son père à sortir des griffes de la police et donc à en réchapper finalement, à survivre à la guerre, alors que cet Édith Pagnon travaillait pour la fameuse Gestapo française de la rue Lauriston. Et pendant des années, sans doute des dizaines d'années, Modiano a cherché à retrouver des informations sur cet Édith Pagnon, jusqu'à chercher le fameux garage du 17e arrondissement où travaillait Pagnon. Si je parvenais à le découvrir, un ancien mécano me parlerait de Pagnon et, je l'espérais, de mon père. Et je saurais enfin tout ce qu'il fallait savoir et que mon père savait, lui. J'avais dressé une liste des garages du 17e, avec une préférence pour ceux qui étaient situés à la lisière de l'arrondissement. J'avais l'intuition que c'était dans l'un d'eux que travaillait Pagnon. Garage des réservoirs. Société ancienne du garage Autostar. Vanzon. Vicar et compagnie, Villa de l'Auto, Garage Côte d'Azur, Garage Caroline, Champéret Marly Automobile, Crystal Garage, De Korchak, Eden Garage, L'Étoile du Nord, Autosport Garage, Garage Franco-Américain, Sokova, Majestic Automobile, Garage des Villas, Autolux, Garage Saint-Pierre, Garage de la Comète, Garage Bleu, Matford Automobile, Diac, Garage du Bois des Corps, As Garage, Dixmude Palace Auto, Buffalo Transport, Duvivier Sarle, Autoremise, L'Ancien Frère, Garage au Dock de la Jonquière. Aujourd'hui, je me dis que le garage où m'emmenait Annie avec mon frère doit figurer sur la liste. C'était peut-être le même que celui de Pagnon. Je revois les feuillages des arbres de la rue, la grande façade beige à frontons. Ils l'ont démoli avec les autres et toutes ces années n'auront été pour moi qu'une longue et vaine recherche d'un garage perdu.
Claude Burgelin, pour retrouver la mémoire, ou peut-être pour mieux la perdre, Patrick Modiano fait des listes de noms de garages, ici dans l'extrait de Remise de peine que vient de nous lire Denis Cosnard. C'est donc cet écrivain de la mémoire que chante également l'Académie Nobel. Mais la mémoire de Modiano est selon vous une mémoire figée?
Il y a un côté figé de la mémoire, puisqu'il a effectivement le besoin de revenir au même nom propre, aux mêmes listes. Et ça fonctionne comme une espèce de ritournelle de noms qui sont comme une réassurance face justement à l'immense continent de l'amnésie et de l'oubli. Dans un pédigré, il évoque cet épisode de l'enfance où, à la suite d'un petit accident de rue, on l'emmène dans une infirmerie, un hôpital, et on le soigne à l'éther, et il dit ceci: « Depuis, je serai particulièrement sensible à l'odeur de l'éther, beaucoup trop. L'éther aura cette curieuse propriété de me rappeler une souffrance, mais de l'effacer aussitôt, mémoire et oubli. » Et là, on est vraiment au cœur du fonctionnement de la mémoire chez Modiano. Il n'y a autant de rappels à la mémoire que parce qu'il y a l'immense continent de l'oubli ou de l'amnésie. L'amnésie, ce vers quoi on ne veut pas aller, c'est-à-dire une souffrance sans nom, qui est liée pour une bonne part à la mort du jeune frère Rudy, qui est l'événement tragique de son enfance, où il dit désormais « je ne vis une vie qui n'était pas la mienne ». Et donc c'est comme s'il y avait quelque chose là de mort qu'il fallait traîner tout le temps par-devers soi. Et puis la mémoire est chez lui ce qui lui permet d'accéder au continent de l'imaginaire. C'est parce qu'il se souvient de tel nom, lieu, etc., qu'il s'ouvre à autre chose. Et ce qui est fascinant chez lui, c'est justement que le temps n'est pas le temps, les lieux ne sont pas des lieux, l'identité n'est pas une identité. Que toujours il y a de la mobilité, du jeu, de la superposition. Et c'est là où je crois que c'est un écrivain génial. Je veux dire par là qu'il accomplit, après une révolution tonitruante avec la place de l'Étoile, une espèce de révolution tranquille et douce, de subversion de tous les constituants de l'univers narratif habituel, puisque ses quêtes se dispersent, se perdent dans l'oubli ou dans l'inachèvement. Les puzzles ne se rassemblent jamais. Il nous oblige à penser tout autrement les constituants fondamentaux de notre vie psychique, l'identité, l'espace, le temps. Et là, je trouve que c'est l'invention de Patrick Modiano est absolument saisissante.
Tiphaine Samoyau, précisément, pour vous qui, dans ce cahier de Lerne dont nous disions un mot, avez travaillé sur le nom propre chez Modiano, l'usage qu'il en fait, cette quête acharnée parfois, on l'entendait dans cette recherche d'un garage il y a quelques instants, cette quête des noms propres finalement lui sert à mieux livrer ces personnes, ces lieux, ces rues, ces hôtels à la fiction.
Oui et non, c'est ça qui est absolument spectaculaire et très inédit et qui fait tout le prix de cette œuvre. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que disait Claude Arnaud sur l'auto-engendrement littéraire, mais moins sur la question de la césure entre la place de l'Étoile et le reste, parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'il pose d'emblée tout un univers avec ses éléments constitutifs, et ensuite, il entreprend d'effacer tout ce qui en fait la teneur, la matérialité, peut-être la substance, et les noms propres qui habituellement quand même dans le roman définissent le roman, en tout cas pour le roman réaliste c'est quand même très frappant que les personnages ont une identité très forte à la fois sociale, politique, sexuelle, etc. par leur nom. Là, personne n'a d'identité. Les noms ne donnent pas d'identité. Les noms sont des marqueurs instables, des marqueurs d'identité instables et des marqueurs instables aussi d'identité. C'est-à-dire que perpétuellement les personnages changent de nom, ils ont des alias, des surnoms, alors qu'ils peuvent renvoyer justement à cet univers de la pègre, des marlous, le grand à la jague, enfin qui font penser aussi à des films de Julien Duvivier, donc là qui ancrent dans un certain réalisme. Et puis immédiatement ensuite, on change de nom parce qu'on y est obligé par l'histoire. Donc tout est déstabilisé et à chaque fois que quelque chose est donné, il est en même temps effacé. Et c'est ça qui est vraiment spectaculaire, c'est qu'il n'y a pas de... c'est pour ça que dire c'est du roman de la mémoire, c'est très ambigu, parce qu'on ne regagne rien en enquêtant sur le passé. Jamais. D'où le caractère parfois un peu déceptif de ces livres. C'est-à-dire qu'à la fin, on a suivi une enquête passionnément, hein, comme on aurait lu un roman policier. Et à la fin, quelque chose se dissout comme une bulle de savon. Et alors... Ce qu'il faut essayer de comprendre par rapport à ça, c'est deux choses. D'abord, en effet, c'est pour moi intéressant qu'on le salue comme un écrivain de la mémoire, ou précisément c'est un écrivain de l'effacement, qui montre cet effacement, cette manière dont les photographies aussi perdent leur couleur, les traits des figures qu'elles ont captées. Mais aussi pourquoi on aime tant ça, hein, parce que je crois que bon, beaucoup de lecteurs de Modiano sont des lecteurs passionnés. Je pense que tout nous tous autour de cette table sommes ici parce qu'on aime beaucoup Modiano. Essayer de comprendre pourquoi on l'aime alors qu'il y a quelque chose de si décevant. On ne l'aime pas parce qu'il est décevant. On l'aime parce qu'on retrouve, je pense, dans ses livres, quelque chose qui nous fait lire, précisément. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on rentre dans un livre, on s'identifie imparfaitement à des personnages que finalement on va effacer de soi une fois qu'on aura terminé le livre, et que ce rapport-là qu'il a avec ses personnages et son univers, c'est exactement celui que nous avons comme lecteurs à lire des livres et à rentrer dans des mémoires qui ne sont pas les nôtres et qui ne vont affecter que temporairement nos existences.
Denis Cosnard, l'Académie Nobel, encore elle, a pu insister sur le fait que Modiano serait cet écrivain de l'occupation, ce détective donc tourné vers le passé qu'évoquait à l'instant Tiphaine Samoyau. On a même pu dire à plusieurs reprises que c'était comme si sa mémoire s'arrêtait à sa naissance, 1945. Mais est-ce bien certain ?
Alors, non, évidemment, non, c'est pas vrai. Il a continué, enfin, dans ses romans, il parle évidemment de toute la période avant sa naissance. Ses romans se passent aussi aujourd'hui. Dans le dernier roman, il y a un téléphone portable, enfin, bon, et une clé USB dans le précédent. Enfin, on est à la fois, il y a le temps de la narration. Ce qui est fabuleux, moi, ce qui me fascine dans Modiano, c'est la façon dont il passe d'un temps à un autre, dont il va toujours et avec une fluidité remarquable, chercher un peu plus loin dans le passé. Il y a un roman où on le voit, je crois que c'est dans Livret de famille, où il arrache les papiers peints successifs, les couches de papier peint successives sur les murs. Et c'est ça, Modiano. Il, dans son dernier roman, voilà, ça se passe en 2012, 2013, et puis on arrache une couche de papier peint, on se retrouve dans les années 51, 52, 53, où justement il était à Jouy-en-Josas avec son petit frère. Et puis, on va arracher encore plus de couches et on va se retrouver dans les années 40 et parfois de façon antérieure. Et effectivement, ce qui est le noyau, c'est effectivement ce qui s'est passé avant. Ce sur quoi il s'est interrogé toute sa vie, c'est effectivement, ce sont effectivement ses parents, son père, sa mère, comment son père et sa mère, ce juif qui se cachait et cette flamande qui travaillait pour la Continentale, pour l'occupant, ont-ils pu se rencontrer? C'est une rencontre complètement improbable que seule l'occupation a pu permettre.
Oui, c'est frappant dès la place de l'Étoile, cette simultanéité dans le temps. Il est à la fois, il écrit dans le temps zéro, donc 68, il est constamment à la fois pendant la guerre et avant la guerre. De même qu'il est constamment ce jeune juif, mais qui aussi prend des pseudos, arien, goy, aristocratique en général. Et là, le jeu, il est déjà très très bien maîtrisé et complètement spontané. Et mon hypothèse, c'est qu'il avait fait main basse sur ce trésor historique de l'occupation sous-exploité à l'époque. Et comme un gangster, il s'est attaché à son trésor et qu'il le divulgue de façon de plus en plus parcimonieuse.
Je m'inspire l'occupation pour décrire un espèce de climat trouble comme il en existait sous l'occupation, mais ça n'a pas tellement de rapport avec l'occupation telle qu'elle a vraiment existé.
Vous avez toujours écrit sur cette période douloureuse. Est-ce que le fait d'être juif a motivé l'intérêt que vous portiez à cette période?
Au début, oui, je croyais que c'était le fait d'être juif parce que j'avais lu tous les auteurs antisémites, tous les pamphlets qui avaient paru dans les années 30 et puis après sous l'occupation.
Et certains avaient beaucoup de talent.
Alors, oui, ils avaient beaucoup de talent, alors je me sentais injurié avec beaucoup de talent et évidemment ça me faisait de la peine parce qu'il y en avait qui avaient beaucoup de talent, qui étaient très brillants. Et je sentais que c'était à moi qu'ils en voulaient, alors... J'aurais voulu leur répliquer tout ça, mais en fait, après, je me suis aperçu que c'était plutôt un espèce de climat qui m'obsédait, un climat un peu ambigu et trouble, comme il y en avait sous l'occupation, avec des personnages qui ont profité des événements pour ressurgir.
Est-ce que votre famille a eu à souffrir de l'occupation, enfin des persécutions nazies ?
Non, pas spécialement, mais je sais que quand j'étais enfant, j'entendais des propos comme ça, ils en parlaient beaucoup. Enfin, il y avait encore des souvenirs. Et puis il y avait aussi, c'était très proche de la guerre. Alors il y avait, par exemple, je me rappelle que le jeudi après-midi, il y avait une émission sur le massacre d'Oradour, tous les jeudis, et j'avais écouté ça quand j'avais 5 ou 6 ans, alors ça m'avait frappé.
Patrick Modiano, en 1972, à l'âge de 27 ans, au micro de Jacques Chancel, Radioscopie sur France Inter. Vous êtes sur France Culture, une vie, une œuvre consacrée aujourd'hui à Patrick Modiano. On l'entend ici, l'homme qui goûte le trouble, le vague, la lumière qui tremble, cette drôle d'époque entre chien et loup de l'occupation, comme il l'a défini, comme il l'a décrit, mais aussi la duplicité des personnages, son caractère double, qu'évoquait juste avant cet extrait Claude Arnaud, du fait même de sa naissance, entre cette mère flamande, Louisa, et ce père juif qui faisait des affaires louches sur le marché noir, notamment avec des gars de la rue Lauriston. Claude Burgelin, le premier double de l'histoire de Modiano, n'est-il pas justement son père, cet homme dont il s'interroge de savoir s'il était du demi-monde ou de la haute pègre, et qui avait cette double identité, Aldo Modiano, qui se faisait appeler Henri Lagroua et qui faisait donc des affaires avec les collabos?
En tout cas, c'est le père que Patrick Modiano s'est construit. Je n'irai pas plus loin dans cette direction. Toujours est-il qu'effectivement, ce qui est fascinant, c'est à quel point Patrick Modiano est entré, je dirais, dans les signifiants de son père. C'est frappant en relisant un pédigré, combien, au fond, ce qu'il a à dire de son enfance, c'est énumérer les noms propres des gens que son père rencontrait. Comme si c'était ça la substance même de son enfance. Et puis, bien sûr, il y a eu un conflit oedipien d'une violence extrême. C'était du genre, c'est au toit de là que je m'y mette, c'est lui ou c'est moi. Il monte dans un de ses romans un père littéralement filicide, puisqu'il veut balancer sur le quai du métro, dans la voie, son fils. Et on a l'impression qu'effectivement, à un certain moment, peut-être après Dora Bruder, après, encore plus après un Pédigré, la figure du père est maintenant... l'affaire est réglée. Et que c'est maintenant la question de la mère qui devient absolument essentielle, cette mère abandonnique, puisque le dernier livre, là, se termine sur une femme en situation de mère qui abandonne un enfant.
Denis Cosnard.
Oui, ce que dit Claude Burgelin est tout à fait exact. Mais si le père disparaît un petit peu de l'avant-scène où il était pendant si longtemps, c'est que effectivement l'enquête que Patrick Modiano a menée sur Dora Bruder a permis quelque part de réhabiliter la figure du père. C'est-à-dire il le dit bien dans Dora Bruder, qui est un livre autant sur son père que sur Dora Bruder, honnêtement.
Cette jeune femme juive fugueuse dont il trouve la trace par hasard dans un fait divers de 1941.
Exactement.
Qu'il piste ensuite pendant des années jusqu'à publier en 1998 son histoire.
Voilà, vous l'avez dit absolument parfaitement. Et au travers de ce travail, de cette enquête sur Dora Bruder, il parle beaucoup de son père et finalement il transforme son jugement sur son père, ce père qu'il avait voué aux gémonies, qui était un mauvais père, complètement ridicule, un schlemil, pour reprendre la formule de la place de l'étoile. Finalement, il le compare plutôt à la fin au héros de l'affiche rouge, enfin à des gens qui étaient obligés de se cacher, qui certes ont fait du marché noir, ont sans doute trafiqué avec les bureaux d'achat tenus par les Allemands, mais au fond, ils n'avaient pas d'autre choix et c'était des héros.
Et son père voulait de façon psychorigide des choses pour lui, alors que sa mère le laisse tomber à chaque fois.
Mais alors, avant de parler de sa mère, Tiphaine Samoyo, peut-être encore un mot, non pas du père, mais de Modiano lui-même, peut-être double ou plutôt duel dans sa substance même, lui qui évoque le terreau ou peut-être le fumier dont il est issu et qui décrit encore la jeunesse de son pensionnat à Jouy-en-Josas comme une jeunesse dorée, mais d'un or suspect de mauvais alliage. C'est Modiano, l'homme de mauvais alliage ?
Oui, je ne sais pas, en tout cas, il construit sa figure sur une duplicité. Hein. Et donc, cette duplicité, c'est à la fois le double, donc c'est aussi la relation avec son frère. Hein. Je crois que Claude Burgelin l'a rappelé, mais c'est absolument décisif, hein, jusque dans le nom de Dora Bruder, d'ailleurs, qui signifie frère en allemand. Voilà.
Rudy, donc, né son cadet de 2 ans, né en 1947.
Oui, d'ailleurs, la date de naissance qu'il se donne n'est pas forcément à lire comme une imposture, mais comme une substitution de naissance, une co-naissance. La mort de son frère l'oblige à naître à sa place. Donc moi, je le lis moins comme une imposture que comme une sorte de nécessité intérieure où tout d'un coup, il devient double. Alors après, ce double se décline de plein de manières différentes dans la construction de ces deux figures opposées du père et de la mère. Voilà, ce sont des constructions qui sont très fortes. Alors après, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement dans la réalité. Un pédigré, on le prend plus facilement pour un texte autobiographique, mais comme tous les autres textes sont tissés d'autobiographie, tout se mêle. Hein. Donc moi, j'ai du mal à parler du vrai père ou de la vraie mère de Patrick Modiano. Mais en tout cas, les figures qui sont mises en scène sont des figures très, très fortes, très, souvent très violentes, contre lesquelles le personnage s'oppose souvent. Mais sont aussi des figures fascinantes et des figures très cinématographiques, hein, l'une et l'autre. Alors évidemment, sa mère travaille dans le cinéma, mais elle est très cinématographique, elle fait toujours des apparitions, elle parle peu. Et en effet, ce sont des grands gestes théâtraux d'abandon, de présence, d'absence, comme sur des écrans. Mais pour moi, sont quand même en grande partie des constructions. En tout cas, c'est comme ça que ça nous arrive et que c'est comme ça aussi que ces figures sont fortes.
Il y a cette construction donc, de la dualité dans la figure du père et de la mère, dans ce qu'il évoque et ce qu'il cherche à propos de lui-même, Pierre Paché, mais aussi et peut-être plus encore dans son art que vous qualifiez de désinvolte et pourtant si précis.
J'ai envie de faire entendre moi aussi un texte de Modiano qui est tiré de Dora Bruder, que je considère comme peut-être le point culminant de son œuvre. Un livre saisissant qui suppose un travail considérable, mais qui se présente pour le lecteur d'une façon extraordinairement fluide. C'est une fluidité qui permet le passage des fantômes, des ombres. Et le passage que nous avons choisi, c'est un moment où il évoque la fin, enfin, un moment des Misérables de Victor Hugo, où Jean Valjean est allé, conformément à la promesse qu'il avait faite à Fantine, à sa mère, chercher la petite Cosette dans le pensionnat religieux où elle est recueillie. Et il veut échapper à Javert, donc il est sur la rive gauche vers le jardin des plantes, puis à un moment il traverse le pont d'Austerlitz. Et la seule manière de leur échapper, parce qu'il croit que des ombres le suivent, pense-t-il, c'est de suivre la petite rue du chemin vers Saint-Antoine. Et là, ce que je veux montrer, c'est, sans le dire, c'est comment se mêlent ces différents plans. Et soudain, on éprouve une sensation de vertige. Comme si Cosette et Jean Valjean, pour échapper à Javert et à ses policiers, basculaient dans le vide. Jusque-là, ils traversaient les vraies rues du Paris réel, et brusquement, ils sont projetés dans le quartier d'un Paris imaginaire que Victor Hugo nomme le Petit Picpus. Cette sensation d'étrangeté est la même que celle qui vous prend lorsque vous marchez en rêve dans un quartier inconnu. C'est une phrase magnifique. Au réveil, vous réalisez peu à peu que les rues de ce quartier étaient décalquées sur celles qui vous sont familières le jour. Et voici ce qui me trouble. Au terme de leur fuite, à travers ce quartier dont Hugo a inventé la topographie et les noms de rues, Cosette et Jean Valjean échappent de justesse à une patrouille de police en se laissant glisser derrière un mur. Ils se retrouvent dans un jardin fort vaste et d'un aspect singulier, un de ces jardins tristes qui semblent faits pour être regardés l'hiver et la nuit. C'est-à-dire, Victor Hugo, cité par Modiano, devient du Modiano. C'est vraiment un magicien. C'est le jardin, continue Modiano, c'est le jardin d'un couvent où ils se cacheront tous les deux et que Victor Hugo situe exactement au 62 de la rue du Petit Picpus, la même adresse que le pensionnat du 5 heures de Marie où était Dora Bruder. C'est très très fort.
J'ai vu dans l'ombre vos yeux immenses. Mon cœur est plein de folle espérance et je pense à vous le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même. Et pour vous dire que je vous aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon pays. Bei mir bist du schön, cela signifie vous êtes pour moi plus que la vie. Bei mir bist du schön veut dire en amour, chérie, je suis à vous pour toujours. J'aurais voulu.
Bei mir bist du schön, chante en yiddish et en français Léo Marjan, un grand classique. L'être juif, l'identité juive, on la retrouve dans l'extrait que vient de nous lire Pierre Pachet de Dora Bruder. On le retrouve dès La Place de l'Étoile, dès les débuts, dès le premier roman de Patrick Modiano en 1968, comme nous en faisait part Claude Arnaud il y a quelques instants, un peu plus tôt dans cette émission. Pourtant, Denis Cosnard, être juif ne va pas de soi pour Patrick Modiano.
Ah ben oui, bien sûr, ça ne va pas de soi. D'autant qu'il est demi-juif par son père, mais sa mère est une Flamande qui, elle, est tout à fait goy.
Et en plus, embringuée, sinon actrice, à la Continentale, donc voilà, la maison de production
allemande.
Nazie.
Voilà, il se trouve que l'histoire a fait qu'elle est effectivement, elle a été embringuée par un officier allemand et qu'elle a travaillé à la Continentale. Et que, selon la loi juive, c'est plutôt la judéité se transmet plutôt par les femmes. Donc, Modiano devrait plutôt se sentir goy sur un plan juste, factuel. Mais on l'a entendu tout à l'heure chez Jacques Chancel, lui, il se sentait profondément juif. Donc, effectivement, cette identité, c'est une identité qui est déchirée, qui est forcément un peu duel, à la fois juif et pas juif.
Et c'est aussi, pardon, Denis Cosnard, une identité qui se construit au fur et à mesure des années. Il évoque notamment sa découverte à 13 ans des camps d'extermination à travers un documentaire qu'il découvre un peu par hasard dans un cinéma avec son père, Le procès de Nuremberg.
Oui, tout à fait. Et puis, il a découvert aussi que, petit à petit, que son père, effectivement, avait ce double nom, se faisait passer pour un certain Henri Lagroix, qui était un de ses amis, en découvrant ça très tardivement. Parce que, visiblement, dans la famille Modiano, ça, on ne parlait pas énormément de ces choses-là après la guerre. On ne parlait pas de grand-chose, semble-t-il, à en lire un pédigré. Donc, c'est une entité qui s'est construite progressivement, par référence aussi à la littérature. Modiano a été fasciné, notamment, par l'écrivain Maurice Saxe. Il se trouve que Maurice Saxe, en plus, a habité dans le même appartement que la famille Modiano. Il y avait des livres que Maurice Saxe avait laissés dans la chambre d'enfant où vivait Modiano, qui est Conti. Donc, il a lu Maurice Saxe, qui était lui aussi un demi-juif, qui était à la fois demi-juif et qui, en même temps, collaborait avec les Allemands. Donc, c'est évidemment ce qui est passionnant chez Modiano, c'est que il est tout ça à la fois, juif et pas juif. C'est tout l'objet de la place de l'Étoile. C'est est-ce que je suis juif, est-ce que je suis pas juif. Il se met dans la peau de l'un, dans la peau de l'autre. Cette identité est tout sauf facile à vivre. Et petit à petit, quand même, on dit que Modiano écrit toujours le même livre, et c'est vraiment quelque chose de complètement faux. Et petit à petit, entre La Place de l'Étoile et puis Dora Broder, il y a eu un sacré travail. C'est-à-dire que dans les premiers livres, il se focalisait vraiment sur les collabos, en particulier la figure du juif collabo qui l'a passionné avec Maurice Saxe et quelques autres. Et puis petit à petit, il en est venu à s'intéresser plutôt non pas aux bourreaux ou à leurs acolytes, mais aux victimes. À Dora Broder en particulier, et à réhabiliter son père de la même façon.
Et ce qu'il appelle, par exemple, l'odeur de cuir pourri des gars de la rue Lauriston. Pierre Paché, vous êtes vous-même, vous le dites dans le cahier de l'herbe consacré à Modiano.
Avec la rue Lauriston.
Non, mais vous vous dites comme Modiano, divisé entre un attachement profond à la France et puis un sentiment de méfiance, voire de répugnance, à propos en particulier de ces heures noires de l'occupation.
Mais pour moi, la France, c'est juin 1940. C'est sans doute quelque chose que je partage avec Modiano, qui n'était pas né à cette époque-là, à différence de moi. C'est juin 40, c'est le moment où le pays s'est effondré, s'est avéré incapable de résister à l'Allemagne, alors qu'il avait une armée, qu'il avait une industrie, toutes sortes de choses. Et donc je me sens passionnément français, mais je ne peux pas oublier juin 40. Tous les jours, c'est visible.
Et cette inquiétude que vous ressentez, elle sourd aussi dans l'œuvre de Modiano. C'est justement quelque chose que vous entendez dans la fameuse petite musique de Modiano.
Moi, c'est pas une petite musique, c'est une musique formidable. Oui, je sais pas, je veux pas parler de ce qu'il ressent lui, mais je l'entends. Oui, j'entends cette perception très très aiguë de l'instabilité de ce qui semble, l'instabilité même des rues, des noms, des institutions, cette instabilité qui a été éprouvée une fois. Elle a été éprouvée en juin 40. Elle continue de s'éprouver. Alors bien sûr, non pas que le monde devrait rester stable, il est fait pour changer, mais il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus inquiétant, qui appartient... Oui, enfin, peut-être là, je livre trop mes pensées personnelles, mais qui appartient à l'être français. Il y a quelque chose qui n'est pas assuré. C'est une nation qui porte avec elle... Enfin, je vais me faire des ennemis, mais tant pis.
En tout cas, vous balbutiez comme Modiano.
C'est une nation qui porte avec elle une honte qui n'a pas été rachetée.
Alors, je ne sais pas si c'est le fait de supporter le moins mal possible cette honte, Claude Burgelin, mais être juif pour Modiano passe encore par le nom, et en particulier par le faux nom, qui est un sujet sur lequel vous avez enquêté à propos de nombreux auteurs mal nommés.
La question du nom est très passionnante chez Modiano, puisque derrière le nom propre, cette affiche sociale, il pressent toujours un secret, un mystère et peut-être un crime. Je suis tombé sur cette phrase de Modiano. Là. J'éprouve un sentiment de culpabilité dont l'objet demeure vague, un crime auquel j'ai participé en qualité de complice ou de témoin. Au fond, comme Hamlet le fils se sent criminel parce que Hamlet, le père, a été criminel et la mère l'a été ô combien, il porte un crime sans nom en lui. Alors un crime à multiple portée, puisque ça va, c'est aussi bien les affaires sordides que la déportation Auschwitz, etc. Mais c'est là, dès qu'on touche au nom, le nom, puisque l'extermination des Juifs s'est faite à partir de leur nom, fondamentalement.
Et de leur recensement.
Élément
clé
de ces noms. D'où la nécessité, effectivement, du changement de nom, de l'identité multiple, qui est aussi une façon de sauver sa peau.
Et à propos de peau, vous en disiez un mot, mais revenons-y peut-être avec vous, Claude Arnaud. Parlons de ce corps de Modiano, c'est 1m 98 et ce côté donc Grégory Peck, qui Peck n'avait rien de juif, en tout cas selon les caricaturistes nazis.
On voit bien que c'est un des ressorts de la Place de l'Étoile, c'est ce très grand narrateur et qui a une scène fantastique avec son père, où son père est habillé en rabbin et lui est en costume SS, et il précise à plusieurs reprises que le costume SS lui va très bien. Il est grand, il a les cheveux clairs et il étrangle son père. Donc là, c'est presque du Mel Brooks dans The Producer. Là, il y a un côté presque, oui, Marx Brothers, Woody Allen. Il y a toute cette dimension, effectivement, mais qui est portée par ce corps qui ne correspond absolument pas au canon que l'on prête au corps juif et qui redouble l'ambiguïté, évidemment, et l'abîme de l'identité. Ça, c'est évidemment le sujet qui me touche le plus chez lui. C'est cette galerie des glaces impossible à refermer, qu'on arpente et on n'est jamais le même et jamais soi-même, de toute façon.
Alors, à propos d'étrangler son père et de l'abîme de l'identité, il y a quelques accidents chez Modiano, et notamment ce fameux accident nocturne, le titre d'un de ses romans, que vous avez choisi d'apporter, Claude Burgelin, pour nous en lire un extrait.
C'est un extrait sur l'oubli. L'oubli finit par ronger des pans entiers de notre vie, et quelquefois de toutes petites séquences intermédiaires. Et dans ce vieux film, les moisissures de la pellicule provoquent des sautes de temps et nous donnent l'impression que deux événements qui s'étaient produits à des mois d'intervalle ont eu lieu le même jour et qu'ils étaient même simultanés. Comment établir la moindre chronologie en voyant défiler ces images tronquées qui se chevauchent dans la plus grande confusion de notre mémoire, ou bien se succèdent tantôt lentes, tantôt saccadées, au milieu de trous noirs. À la fin, la tête me tourne. Ce que je trouve très intéressant, c'est au fond combien l'univers onirique, l'univers du rêve, est quelque chose d'essentiel pour entrer dans l'univers de Modiano. Puisque, au fond, les identités, les temps, etc., ça se passe comme dans les rêves, où ça change de façon fluide, sans qu'on sache comment, et où les temps et les lieux se télescopent. Et c'est très intéressant de voir qu'il a fait de l'atelier du rêve son atelier narratif romanesque.
Tiphaine Samoyo, il y a un type de figure, de personnage dans la vie et dans l'œuvre de Modiano dont on a peu parlé jusqu'ici et qui font partie de ce rêve, qui sont quasiment toujours dans le sfumato, derrière le brouillard modianesque. Ce sont les femmes. Est-ce que vous êtes sensible à ces portraits de femmes, à ces inconnues, pour reprendre le titre d'un recueil de nouvelles ?
Oui, alors je remarquerais que, conformément à cette logique qui fait qu'on efface ce qui est présent et qu'on ramène à la surface ce qui est éloigné, les femmes prennent, ces figures prennent plus d'importance dans les livres les plus récents, et peut-être justement depuis Dora Bruder. Mais je voudrais revenir un instant sur cette honte. Je crois que c'est un terme extrêmement important quand même pour parler de Modiano, que ce soit une honte qui se rattache à une honte collective, une honte individuelle, ce qui est la honte du survivant en fait, hein, qui est pourquoi suis-je à cette place et un autre à une autre place, c'est-à-dire cette qui fait tout reposer sur une sorte de circonstances extrêmement vagues et non nécessaires, hein, qui fait reposer l'existence comme ça. Et ce vertige des identités dont parlait Claude Arnaud à l'instant, c'est même un vertige pratiquement plus métaphysique du point qu'on occupe quelque part et qu'on a toujours volé à quelqu'un, en quelque sorte.
I know I cannot leave this place.
Robert Wyatt chantant Memories, les souvenirs, en hommage à Patrick Modiano. C'était Une vie, une œuvre. Patrick Modiano avec Claude Arnaud, Claude Burgelin, Denis Cosnard, Pierre Pachet et Tiphaine Samoyot. Merci à Raphaël Guidé. Cette émission était produite par Martin Kénéen et réalisée par Doria Zénine, à la prise de son Pierrick Monsigny, Archivina Isabelle Faure. Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, commentaires, podcasts et compléments sur franceculture.fr.